Radio Orient présente Pluriel. Pluriel animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Dienaba Diop, porte-parole du Parti Socialiste et d'Île-de-France en commun, adjointe au maire des Mureaux. Bonsoir.
Bonsoir Loïc.
Alors Dienaba Diop, qu'est-ce que vous pensez de cette polémique qui a duré depuis plusieurs jours sur l'islamo-gauchisme lancée par la ministre de l'Enseignement supérieur? Est-ce que des enseignants utilisent leurs fonctions pour véhiculer une idéologie comme cela a été dit le week-end dernier?
Je pense qu'il y a deux choses au sujet de cette polémique. La première, c'est que je trouve indécent de lancer ce type de sujet alors que le rôle de la ministre de l'Enseignement supérieur est surtout de s'intéresser au sort de milliers d'étudiants qui sont non seulement dans la précarité, comme le montrent les files d'attente pour aller pouvoir avoir un repas chaud à Paris et ailleurs, et surtout, vous avez de nombreux jeunes qui aujourd'hui ne savent pas comment ils vont pouvoir reprendre des études parce qu'ils sont privés de pouvoir se rendre à l'université et donc d'être au contact des enseignants le plus souvent de manière efficiente depuis des mois. Donc je ne pense pas que la priorité aujourd'hui pour la ministre de l'Enseignement supérieur ce soit de déclencher une polémique à propos d'un ressenti, puisque c'est comme ça qu'elle le qualifie, d'un ressenti de certaines personnes au sein de l'université qui dirait qu'il y a des enseignants qui utilisent leurs fonctions et leurs positions pour faire du militantisme au sein de l'université. Si tel est le cas, eh bien oui, on peut demander à ce que, par ses pairs, l'université soit dotée d'outils pour justement mesurer la véracité et l'étendue réelle de ce phénomène. Mais je pense très sincèrement que ce n'est pas la priorité et que focaliser sur ce type de questions, c'est aussi faire diversion sur la réalité de la situation.
Ce terme d'islamo-gauchisme est considéré comme un fourre-tout par certains. C'est votre sentiment également?
Je crois qu'il y a eu une déformation de ce terme qui a été forgé par M. Taguieff et qui a été repris, et tout le monde le sait, par la droite extrême et par l'extrême droite. Lorsque vous entendez ce terme d'islamo-gauchisme, qu'est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a une collision avec des islamistes, et même quelquefois les gens n'entendent même pas le mot islamiste, ils entendent juste le mot islam, et une partie de la gauche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aurait des responsables politiques, des intellectuels de gauche qui seraient pour la propagation, qui feraient la promotion de l'islam radical, alors que c'est exactement ce qu'il faut combattre et qui est aux antipodes des valeurs de la République. Sincèrement, je trouve que le terme est impropre. Qu'on puisse dénoncer qu'il y ait parfois une convergence des luttes entre des personnes ou des militants d'extrême gauche et ceux qui font de l'islam politique, oui, c'est arrivé, c'est un phénomène qu'on ne doit pas occulter. Mais en faire une généralité, je pense que c'est dangereux.
Alors parlons des étudiants Dienaba Diop. À l'Assemblée nationale, le Parti Socialiste a fait une proposition concrète pour aider les jeunes, un texte qui a été finalement rejeté par la majorité. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'était cette proposition?
Il y a eu deux temps dans cette proposition. Donc, par l'intermédiaire de nos parlementaires, le Parti Socialiste, via Boris Vallaud et Hervé Solignac, ont fait une proposition d'établir un revenu minimum jeunesse. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une période où nous savons que notre jeunesse a beaucoup de mal à pouvoir se loger, se nourrir et même subsister parce que la pandémie les a privés de petits boulots pour beaucoup d'entre eux et d'une activité rémunératrice. Donc la proposition que nous avons faite, c'est de dire de la même manière que nous avons un revenu minimum vieillesse, nos jeunes, on leur doit aussi de ne pas les sacrifier dans cette période qui est très difficile et qu'on doit les accompagner en attendant des jours meilleurs. Donc ça a été rejeté et la deuxième proposition qui a été faite, c'est de dire, donc dans ces cas-là, on demande à la majorité d'ouvrir le revenu, le RSA, aux jeunes au moins le temps de la pandémie. Ça a été aussi balayé d'un revers de main. Et même j'ai été choquée par les propos d'une des députées de l'REM qui a dit donner une rémunération même ponctuelle pour aider nos jeunes qui sont dans la difficulté, ce serait comme leur donner la béquille. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est ce mépris affiché pour nos étudiants? Ça veut dire que finalement, on détourne les yeux au moment où notre jeunesse a besoin de nous, au moment où beaucoup d'étudiants sont dans une précarité sans précédent, où, eh bien, moi, je crois que c'était le rôle du gouvernement que de leur tendre la main. Nous avons essayé de le faire au Parti Socialiste, malheureusement, nous n'avons pas été entendus.
Alors, le président Macron a lancé récemment la plateforme contre les discriminations. Dienaba Diop, qu'est-ce que vous attendez de cette plateforme?
Ce que nous sommes tous en droit d'attendre de cette plateforme, c'est qu'il y ait une vigilance accrue sur tous les propos d'incitation à la haine qui peuvent gangréner les réseaux sociaux. On sait très bien que sous couvert d'anonymat, et pas toujours d'ailleurs, nombre de personnes sont agressées, sont discriminées, et sont même insultés sur les réseaux sociaux. Moi, j'attends de cette plateforme c'est qu'il y ait une véritable vigilance, qu'elle soit suivie des faits, et j'espère qu'on a mis les moyens, parce que je vous rappelle que une des choses qui avait été pointée, c'est que justement, lors d'affaires assez graves, il y avait eu une faille, parce que cette plateforme ne fonctionnait que pendant la journée, c'est-à-dire que la nuit, les données ne sont pas regardées ni relevées lorsqu'il y a des manquements graves et des cas de discrimination.
La défenseure des droits avait proposé d'expérimenter des zones sans contrôle d'identité. On sait que des jeunes peuvent être contrôlés une dizaine de fois dans la même journée. Proposition rejetée finalement par le Premier ministre. Est-ce que ça aurait été une bonne idée de stopper ces contrôles à certains moments de la journée, dans certains endroits?
Je pense très sincèrement que c'est là encore l'illustration de la méconnaissance de terrain de ce gouvernement et du ministre de l'Intérieur. Lorsque vous êtes un jeune dans une situation où vous êtes dans un quartier sensible, je ne vois pas comment le fait d'être contrôlé 10 fois la même journée va aider à combattre cette délinquance ou va aider justement à reconquérir ces territoires qui sont, pour le gouvernement, des territoires perdus de la République. Un des exemples les plus flagrants, c'est justement le constat qui avait été fait à Marseille. 3 ans après, il y a eu justement des retours du terrain pour savoir ce que cette opération de communication qui avait été faite par Gérard Collomb il y a 3 ans, qu'est-ce qu'elle donnait sur le terrain? La réalité, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, ce qui est fait sur le terrain n'a absolument pas amélioré le quotidien des citoyens marseillais dans les quartiers dits difficiles. Et lorsque vous perpétrez un certain nombre de contrôles d'identité, alors que finalement, si vous contrôlez 10 fois la même personne, ça veut dire que vous avez les éléments d'identité. C'est vécu comment? C'est vécu comme un harcèlement qui ne dit pas son nom par ces jeunes. Et au lieu de restaurer de la confiance et du lien et d'avoir quelque chose de préventif, vous êtes dans le répressif et vous confortez ces jeunes dans l'idée que de toute façon, ils n'appartiennent pas à la République. Donc moi, je pense très sincèrement qu'il aurait fallu au moins étudier cette proposition et qu'elle n'était pas dénuée de bon sens.
Dienaba Diop, certains débats à la télévision ou sur les réseaux sociaux sont particulièrement violents, une violence qu'on n'avait pas connue depuis peut-être les années 30. Est-ce que ça vous inquiète, la tournure des débats actuels à la télévision et sur les réseaux sociaux?
C'est inquiétant parce que je crois que ça dit beaucoup sur notre société. Il y a une espèce de montée d'une espèce de radicalité dans les postures et dans les propositions des uns et des autres, tant et si bien qu'on n'est plus dans le débat démocratique que dans le débat d'idées. On a l'impression que plus vous serez violent, plus vous serez insultant, plus vous serez à la recherche de la petite phrase et de la punchline, excusez-moi, plus vous existerez. Et je crois que cela nuit au débat démocratique et cela nuit au débat notamment en politique. De mémoire d'élu, on n'avait jamais connu des campagnes électorales, même sur le terrain et sur les réseaux sociaux surtout, aussi violentes, avec des attaques personnelles. Et je crois que nous devons tous appeler à la vigilance, au respect de l'autre, de l'adversaire politique qui n'est pas un ennemi. Ça reste un adversaire politique dans un débat d'idées et je crois qu'on est en train de se perdre parce que chacun veut essayer de faire sensation pour pouvoir exister. Et je crois qu'il y a aussi une responsabilité de certains médias qui mettent en valeur ceux qui sont agressifs, ceux qui sont violents à la recherche justement de l'audience qui monte parce qu'on a réussi à faire un clash sur un plateau. Et ça ne sert absolument pas le débat démocratique.
Alors Dienaba Diop, Audrey Pulvar a officiellement lancé sa candidature pour la présidence de la région Île-de-France. C'est une personnalité connue des Français, elle a été longtemps journaliste de télévision. Ma question va peut-être vous paraître étrange, mais pourquoi elle ? Pourquoi est-elle la meilleure pour diriger la région Île-de-France alors que vous avez des conseillers régionaux socialistes sortants qui auraient peut-être pu exercer cette fonction ?
Je crois que l'intérêt de la candidature d'Audrey Pulvar, c'est que c'est une candidature qui se situe dans le rassemblement, dans l'union de la gauche. Audrey Pulvar, c'est une personnalité profondément de gauche qui a su montrer son attachement aux valeurs républicaines, qui a su aussi nous montrer qu'elle était en capacité de pouvoir répondre aux attentes des différentes formations politiques qui ont choisi de la rejoindre. Moi, je crois qu'elle elle fait consensus auprès des personnes qui l'ont rejointe. Pourquoi ? Parce que c'est une femme qui a des valeurs chevillées au corps, c'est une femme qui est connue, dont on connaît l'action, notamment lorsqu'elle a pris des engagements à la Fondation Hulot concernant l'environnement, mais pas seulement. Et puis, je crois qu'elle a un parcours qui fait partie de ces parcours de méritocratie dans notre République, dans lesquels on se retrouve aussi dans les valeurs qu'elle défend. Et je crois qu'au-delà de savoir, il n'y a pas le problème de l'étiquette politique, et je pense que c'est aussi cela qui nous a séduit, en tout cas moi ce qui m'a séduit, c'est de dire elle est une personnalité, elle incarne un socle de valeurs qui, moi, font écho à mon engagement politique, et c'est la raison pour laquelle nous l'avons choisie.
Alors Dienaba Diop, vous êtes porte-parole d'Île-de-France en commun. Une plateforme a été lancée ce dimanche. De quoi s'agit-il précisément ? C'est pour que les franciliens fassent des propositions ?
Oui, nous sommes particulièrement attachés autour d'Audrey Pulvar et toute l'équipe à ce que justement il y ait cette démocratie participative. Bien sûr, il est important d'avoir une démocratie représentative, mais contrairement à d'autres, nous n'avons pas peur d'aller consulter les Franciliens parce que c'est eux qui vivent la région d'Île-de-France au quotidien. Et donc, nous sommes déjà au travail depuis plusieurs semaines, nous avons travaillé sur les questions. En tant que Franciliens, nous avons été dans des échanges, dans des rencontres. Audrey Pulvar s'est déplacée sur le terrain pour justement aller voir celles et ceux qui font et qui vivent cette région Île-de-France. Et donc, nous en avons conclu que le meilleur moyen de construire cette Île-de-France pour qu'elle soit en commun, c'est justement de pouvoir co-construire un projet, c'est-à-dire qu'on demande son avis à nos citoyens. Nous avons l'idée d'avoir une assemblée citoyenne qui puisse, elle aussi, participer à cette construction de projet. Parce que pour faire une Île-de-France qui nous ressemble, il faut que ce soit un projet pour les Franciliens, avec les Franciliens.
La première proposition portée par Audrey Pulvar, c'est la gratuité des transports en commun. L'idée peut être séduisante pour le pouvoir d'achat des Franciliens, mais on a du mal à imaginer tout de même comment une telle mesure peut être financée, Dienaba Diop.
Une telle mesure peut être financée déjà quand vous en avez la volonté politique. Et cela, nous l'avons. Je crois qu'il faut rappeler que nous ne prétendons pas faire la gratuité des transports au lendemain de notre élection si Franciliens et les Franciliennes nous font confiance. Ce que nous estimons faire, c'est aller progressivement vers une gratuité des transports pour l'ensemble des Franciliens. Comment ça peut se faire ? Ça peut se faire avec justement une contribution des différentes composantes économiques que nous avons, c'est-à-dire par exemple travailler sur une contribution concernant le e-commerce, travailler sur les entreprises, travailler aussi sur tous les coûts cachés que nous n'aurons plus. Quand vous me rendez les transports gratuits, ça veut dire que vous allez aussi enlever du contrôle. Il y a beaucoup de coûts cachés sur lesquels nous travaillons. Mais j'insiste sur un fait, c'est que vous ne pouvez pas être la première région de France et la deuxième région d'Europe et ne pas accompagner une nécessaire transformation au niveau de votre modèle justement économique et de votre modèle environnemental. Travailler sur la gratuité des transports, c'est dire quoi? Ça veut dire que c'est une mesure qui sera une mesure sociale et écologique. Parce que sociale, ça veut dire que nos jeunes, par exemple, vont pouvoir avoir de la mobilité grâce à cette gratuité, puisqu'ils seront les premiers qui bénéficieront de cette gratuité, mais aussi du pouvoir d'achat pour les familles. Ça veut dire que vous remettez de l'argent dans le portefeuille de ceux qui sont les plus démunis. Et c'est aussi accompagner cette mesure forcément par de la qualité en termes de transport et un investissement qu'il va falloir faire pour que justement ceux qui sont les plus éloignés des transports et de la mobilité le soient justement correctement. Et puis aussi travailler sur comment est-ce qu'on peut offrir d'autres modes de transport aux franciliennes et aux franciliens. Je crois que la volonté que nous affichons ici, c'est la volonté de transformer l'Île-de-France et aussi d'accompagner cette nécessaire transition écologique.
Alors Dienaba Diop, vous qui habitez en grande banlieue, au Mureau, quels sont les leviers que la région pourrait utiliser pour améliorer concrètement la qualité de vie des franciliens les plus éloignés de la capitale?
C'est par exemple travailler sur des modalités de déplacement qui seraient... Quand vous êtes sur la ligne sur notre ligne, par exemple, moi celle que j'emprunte, la ligne des Mureaux, vous êtes plutôt bien desservi parce que le RER E arrive, etc. Sauf que vous avez une autre ligne qui se trouve à la rive gauche, qui elle est éloignée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut aussi transformer cette plateforme que sont par exemple la ville des Mureaux, puisqu'on est assez centrale, et en faire un lieu multimodal. Un lieu multimodal, c'est quoi? Ce sont des passerelles pour pouvoir justement amener les gens jusqu'ici. C'est du covoiturage, c'est par exemple des navettes. Regardez comment on peut travailler d'autres modes de transport doux. C'est comment on travaille aussi avec la Seine, avec ses déplacements, pour qu'on puisse justement améliorer cette qualité. Parce que le problème, lorsque vous discutez avec des gens qui sont par exemple à Limay, à Juzié ou dans les petits villages du Vexin, ils vous disent le RER E c'est très bien, sauf que nous comment on va faire pour arriver jusque là? Et je pense qu'avec justement le schéma directeur régional sur les Îles-de-France qui concerne les transports en commun, il va falloir inventer de nouvelles mobilités. Et c'est ce que nous nous proposons de faire en travaillant dès maintenant à une autre façon d'appréhender les transports en commun. Comment est-ce qu'on peut donner la possibilité à ceux-mêmes qui sont les plus éloignés à avoir des navettes, des rabattements vers des transports qui, eux, seront plus performants?
Dernière question, Dienaba Diop. Najat Vallaud-Belkacem propose l'unité de toute la gauche jusqu'à la France insoumise dès le premier tour des élections régionales. Est-ce que cela vous semble souhaitable? Est-ce que c'est possible?
C'est souhaitable. C'est ce que nous disons avec Olivier Faure depuis des semaines et même des années. Puisque depuis son arrivée en tant que premier secrétaire, Olivier Faure rappelle la responsabilité à gauche et la nécessité d'une alliance la plus large possible. C'est souhaitable et je pense que Najat Vallaud-Belkacem prend ses responsabilités lorsqu'elle dit que dès le premier tour, il faut une union de toute la gauche. Parce que même si nous avons des divergences, elles restent minimes face à justement l'idéologie et les valeurs de progrès social et justement de justice sociale que nous portons à gauche, face justement à une droite qui, dans sa gestion, n'est pas du tout sur la même ligne. Je le déplore que, justement, beaucoup à gauche voient ces élections régionales comme une sorte de primaire à la présidentielle. Parce que faire cela, c'est oublier que le premier intérêt, c'est celui des citoyens. Et si vous voulez offrir une alternative à gauche, nous ne pourrons le faire qu'unis, que ce soit au régional ou sur d'autres échéances. Les municipales nous l'ont prouvé.
Merci Dienaba Diop, je rappelle que vous êtes porte-parole du Parti Socialiste et d'Île-de-France en commun, également adjointe au maire des Mureaux. Bonsoir.
Bonsoir, merci à vous.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.